Ce matin, nous nous trouvons autour de cet enfant né dans la nuit. Et nous essayons de contempler un peu mieux le sens de sa naissance et l'incidence sur notre vie. Nous le faisons avec Marie, avec Joseph. Nous le faisons sans doute aussi avec les bergers et pasteurs. Avec simplicité. Nous le faisons aussi avec Saint Jean, qui réfléchit après des années à cet événement de la naissance de l'incarnation. Nous le faisons aussi avec l'école de Saint Paul, lettre aux Hébreux, le sens profond de cette naissance, de cet événement. Marie et Joseph pouvaient sans doute contempler le ciel magnifique de Bethléem. Il est toujours aussi beau, à 800 mètres d'altitude. Il n'y a pas d'industrie, sinon l'artisanat de l'olivier. Ça ne fait pas de fumée, ça ne fait pas de pollution. On peut regarder le magnifique ciel du Moyen-Orient depuis là, depuis cette montagne, depuis une grotte clair-obscure. On voit cet univers. Jean aussi voit l'univers. Il voit celui qui est au principe, au commencement. Cette lumière qui brille dans les ténèbres. Il voit cette lumière qui est dans le monde et par qui le monde est venu à l'existence. Sans lui, rien n'aurait été créé de ce qui existe. Tout a été créé par lui, en lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux a des réflexions semblables là où il se trouve, au nord de l'Égypte. Avec une philosophie, une mentalité qui est différente de celle des Juifs de Terre Sainte. Il parle à des gens inspirés par l'hellénisme, mais il dit la même chose. Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par son Fils, héritier de toutes choses, par qui il a créé les mondes. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est même pas le monde, c'est les mondes. Et aujourd'hui, où on ne contemple plus le ciel seulement avec nos yeux de chair, mais avec des outils sophistiqués comme le dernier James Webb, ce satellite qui observe l'univers, chaque jour on découvre des choses nouvelles. La NASA nous a fait la surprise hier de nous offrir un sapin de Noël observé dans l'espace. Bon, il y a du vert, ça prend la forme d'un sapin, tant mieux. Parmi les galaxies, les nombreuses galaxies qu'il observe, les mondes, et encore, ce n'est pas que le monde matériel. Il y a certainement les mondes spirituels que l'on ignore encore. Tous ces mondes, en tout cas pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, il est celui par qui Dieu a créé les mondes. Le Fils porte l'univers par sa parole puissante. Ce sont des expressions très très profondes. Il a fallu quand même plusieurs décennies pour que Jean et Paul et l'école de Paul, l'école de Jean réussissent à formuler cela. C'est vraiment le fruit d'une contemplation. Au cœur de ce monde, au cœur des désordres et sans doute des ruines, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a du sens? Et quel serait le sens? C'est vrai que les Grecs y ont pensé avant Jésus, avant les apôtres, quand ils discutaient, même dans les rues d'Alexandrie, sur le logos et le verbe pour trouver le sens de la vie, tout simplement, eh bien, ils parlaient de choses profondes et ils cherchaient la question du sens. Quand Jean reprend des termes de l'Ancien Testament, la parole, le davar, la Torah, la parole de Dieu, Dieu qui s'exprime dans le monde, Dieu qui se révèle à travers les événements de l'histoire sainte, dans ce dialogue de salut avec les peuples, avec le peuple d'Israël. Dieu révélait sa parole vivante par un bras puissant, nous dit Isaïe, par un bras, par des gestes, pas seulement par des mots. Il se révélait, il se donnait à comprendre. Eh bien, cette même parole, en hébreu, le davar, les devarim, la Torah, ben, Saint Jean, il se dit, ben, aux Grecs, il faut leur parler de logos, hein, pas le choix. Ben c'est la parole, mais en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire profondément pour les philosophes grecs? Logos, verbe, ça veut dire sens. Bien, le monde est en quête de sens. Il est en quête de sens. Je me trouvais il n'y a pas longtemps en Chine et les taoïstes nous disent, mais vous savez, pour nous, il y a les divinités, bien sûr. À Pékin, ils nous l'expliquent, hein, les grands prêtres là, des temples taoïstes, ils nous disent, il y a les divinités, mais au-dessus des divinités, il y a le Tao. Et le Tao, c'est le verbe. C'est une sorte de principe de création, c'est une sorte d'ordre de toute la création, et c'est en même temps le sens profond de la création. C'est ce que l'œil humain, le cœur humain a des difficultés à discerner. Alors les scientifiques cherchent et découvrent des merveilles. Et là, le James Webb est en train de montrer que beaucoup de théories ne sont plus ajustées. Parce qu'on découvre des galaxies qui sont plus vieilles que ce qu'on pensait. On découvre un univers qui est plus large que ce qu'on pensait. On découvre des trous noirs de quelques microns qui sont capables d'avaler un soleil. On découvre des choses, des lois extraordinaires. Mais voilà, l'esprit humain, la raison humaine cherche, est en quête de sens, est en quête de principe, est en quête de loi de l'univers. Mais le cœur humain, plus profondément encore, est en quête de sens. Et surtout, dans ces situations de non-sens, on peut se mettre à la place de toutes ces personnes qui souffrent le non-sens des destructions, la barbarie qu'ont dû vivre les Juifs, Tel Aviv, une barbarie qu'il fallait dénoncer, qui n'a pas été dénoncée comme il le fallait. C'était de la barbarie. Il n'y a pas de mot et il n'y a pas de raison à cela. J'ai vu des textes de certains évêques qui voulaient trouver des raisons à la barbarie. Non, il n'y a pas de raison à la barbarie, c'est barbare, c'est tout. Il n'y a pas de sens. Et aujourd'hui, ce que vivent des centaines de milliers de Gazaouis, quel sens ça a d'être écrasé par des bombes? Le drame des Ukrainiens, le drame des soldats russes, quel sens tout cela peut-il avoir? Bien bien, certainement avec beaucoup de sagesse, le patriarche de Jérusalem a voulu que cette année on n'exprime aucune joie à Noël autour de la crèche. Il y a simplement une crèche, très pauvre, sombre, avec des ruines tout autour. Pourtant, Marie et Joseph nous montrent, et les pasteurs aussi, les bergers aussi, que dans cette grotte sombre, il y a une lumière. Au cœur des ruines, il y a une expression de sens. Et que là où les philosophes ne trouvent plus de sens, là où les religions ne trouvent plus de sens, il y a un visage qui, par sa sérénité éternelle, nous dit du sens, nous dit du sens. Et il va exprimer le sens pendant toute sa vie, au cœur de ses relations. Il va nous montrer que la vie a du sens, que même la mort a du sens, et que ce sens, on peut le trouver dans l'amour. Cet amour dont il va être témoin, amour d'éternité qu'il va exprimer au cœur du monde, dans les difficultés, dans les situations de non-sens, ses gestes, ses silences, ses mots vont être expression de l'amour qui donne sens à tout l'univers. Et il nous invite à nous associer à son action plus qu'à ses paroles, plus qu'à ses mots, à son action, à son bras très fort. C'est une action d'amour et de miséricorde. Cette action-là donne du sens à toutes les injustices, donne du sens à toutes les épreuves, à tous les drames, à toutes les tragédies. Il est là et il va assumer cela par son amour et il va donner du sens, pas seulement à son peuple Israël, mais il va donner du sens à l'humanité en quête de ce minimum de sens. Mais ce minimum de sens est destiné à transformer et à embraser tout l'univers.